pourrais pas.
Magnifique.
Merci Onésime pour ce que tu nous as apporté. Merci aux musiciens aussi de nous avoir accompagnés. Mon nom est personne. Mon nom est personne. Dieu désigne parfois des individus sans connaissance particulière, sans talent particulier, sans aura, pour accomplir ses plans. Depuis toujours, il existe des serviteurs et des servantes obéissants et zélés, totalement anonymes. Ce sont les glorieux anti-héros du Seigneur. Qui était David lorsque le prophète Samuel est parti à sa recherche? Personne, sinon un petit gardeur de brebis dont nul jusqu'alors n'avait jamais fait grand cas. Et pourtant, ce petit berger inconnu, par seule décision divine, est devenu le plus grand de tous les rois d'Israël. D'autres fois, faisant sortir quelqu'un de nulle part, Dieu choisit de mettre tel ou tel en lumière pour le charger d'une mission. Après quoi, dès la dite mission terminée, ces désignés du Seigneur n'ont plus droit qu'à l'oubli. Un oubli humain épais comme les ténèbres. Dans son Odyssée, Homère raconte que, profitant d'un profond sommeil du cyclope, Ulysse se saisit d'une poutre et lui creva son œil unique. Le monstre, hurlant, s'écria « Mais qui es-tu ?» Ulysse répondit « Je m'appelle personne. » Je vous invite ce matin à découvrir ou redécouvrir l'histoire de quelqu'un qui mérite bien le nom d'emprunt qu'Ulysse s'était choisi. Nous allons parler de personne. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 9, nous lisons les 11 premiers versets. Deux rois, chapitre 9, les 11 premiers versets. Élisée, le prophète, appela l'un des prophètes et lui dit « Passe une ceinture à tes reins, prends cette fiole d'huile et va à Ramoth de Galaad. Là, tu iras voir Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu le feras lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une pièce retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu verseras sur ta tête, sur sa tête, et tu diras « Ainsi parle le Seigneur, je te confère l'onction pour que tu sois roi sur Israël. Puis, tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans attendre. Le jeune prophète, partit pour Ramoth de Galaad. Quand il arriva, les chefs de l'armée étaient installés. Il dit, « Chef, j'ai une parole pour toi. » Jéhu dit, « Pour lequel de nous tous ?» Il répondit, « Pour toi, chef. » Jéhu entra dans la maison et le jeune homme versa l'huile sur sa tête en lui disant, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je te confère l'onction pour que tu sois roi sur le peuple du Seigneur, sur Israël. Tu abattras la maison d'Akab, ton Seigneur. Ainsi je vengerai le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs du Seigneur. Je le ferai payer à Jézabel. Toute la maison d'Akab disparaîtra. Je retrancherai de chez Akab tout mâle, l'esclave comme l'homme libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bacha, fils d'Aïa. les chiens mangeront Jézabel dans la parcelle de Jisréel et il n'y aura personne pour l'ensevelir. » Puis, il ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les hommes de son seigneur, on lui demanda « Tout va bien ? Pourquoi ce fou est-il venu te voir ?» Nous allons procéder en suivant quatre paragraphes. Et le premier de ces paragraphes pose la question « Quel est le contexte historique ?» Les deux livres des rois nous révèlent qu'après la mort du roi Salomon, le royaume a été scindé en deux parties. D'un côté, le royaume d'Israël proprement dit, et de l'autre, le royaume de Juda. À longueur de chapitre, on assiste à un défilé ininterrompu de succession royale. Chez Israël, presque tous les rois sombrent dans l'abomination en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. Chez Juda, quelques rois plus intègres font leur maximum sans toutefois éradiquer totalement la présence des hauts lieux d'idolâtrie. C'est très précisément dans ce contexte que, sous nos yeux, si l'on peut dire, Jéhu, le chef des armées, va recevoir l'onction. Et cet élu va jouer un rôle de nettoyeur. Un nettoyeur violent, brutal, sanguinaire. Il va oxyre Joram, roi d'Israël, ainsi que sa monstrueuse, sa cruelle mère, Jézabel. Après quoi, poursuivant sa funeste besogne, il tuera la famille d'Akab, puis le roi de Juda, Akazia, et toute sa famille. Et ce n'est qu'après cette hécatombe que Jéhu deviendra roi sur Israël. Son règne durera 28 ans. Tel était le premier paragraphe, le contexte historique. Juste avant le grand nettoyage, Élisée appelle ou désigne un de ses prophètes pour aller oindre ce fameux chef d'armée. Le déroulé de ce récit se fait sur un ton abrupt, où il n'y a aucune place pour l'affect. En réalité, Élisée n'énonce que des ordres, et ils sont au nombre de 10. Et le 10e se divise en deux parties. Les voilà. 1. Passe une ceinture. 2. Prends cette fiole. 3. Va à Ramoth. 4. Tu iras voir Jéhu. 5. Tu le feras lever. 6. Tu le conduiras dans une pièce retirée. 7. Tu prendras la fiole. 8. Tu verseras l'huile sur sa tête. 9. Tu diras, etc. Et puis le 10e ordre se décline en deux temps. Tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans te retourner. Voilà le contexte. Deuxième paragraphe répond à la question, essaie de répondre à la question suivante. Quel est le prophète choisi par Élisée ? Quel est son profil ? Eh bien, son nom est personne. Nous ne savons rien ou presque de ce désigné, de cet employé. Le seul élément dont nous disposons est une mention deux fois répétée. Il est jeune. Il est jeune. Toutes les versions consultées font bien cette répétition. Et dans une version plus ancienne que les autres, on trouve un mot délicieux, complètement suranné, obsolète, qui dit le jouvenceau. C'est joli, le jouvenceau. Je kiffe, moi, jouvenceau, ça me plaît. Qu'est-ce que c'est un jouvenceau ? Ben, c'est plus tout à fait un enfant et peut-être pas tout à fait encore un adulte. Trois questions se posent. Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et comment le fait-il ? Première question, qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Il ne fait preuve d'aucun esprit critique. Il ne conteste pas, il ne négocie pas, il n'émet pas d'avis, il ne recentre pas l'objectif sur lui-même, et nous voyons qu'il n'a pas peur, et qu'il n'hésite pas. Deuxième question, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, la réponse tient en deux mots. Il obéit. Monsieur Personne obéit. Troisième question. Comment obéit-il ? Il exécutera scrupuleusement 9 ordres sur 10. 9 sur 10. Nous y reviendrons un peu plus loin. Tels étaient les éléments qui répondaient à la question « Quel est le profil du prophète choisi par Élisée ?» Avec le troisième paragraphe, voyons ce qu'il en est à présent de la mission proprement dite. Dès les ordres formulés, un hiatus important apparaît. Il y a une disproportion vertigineuse, abyssale, entre l'envergure de la mission diplomatique à accomplir et l'inexpérience du jeune missionnaire désigné. Rendez-vous compte, il s'agit d'aller oindre le roi d'Israël. Et plus, les conditions ne sont pas faciles, parce qu'il a quand même une sacrée réputation, ce mec-là. Le brutal sanguinaire Jéhu sera censé obéir comme un mouton en suivant benoîtement un gamin parfaitement inconnu dans une pièce retirée et puis s'incliner devant lui pour recevoir l'onction. Rien que ça. Mais revenons au début. Vous vous souvenez, on a listé les ordres de 1 à 10. Il en est un qui a été abordé, mais pas accompli à la lettre. Alors on se dit, oh, c'est le dernier. Vous savez, tu fermes la porte et hop, tu t'enfuis sans te retourner. Eh bien non. Le verset 10 précise, puis il ouvrit la porte et s'enfuit. C'est donc pas le dixième ordre qui pose question. En fait, le maillon faible, si l'on ose dire, eh bien, c'est le numéro 9. Rappelons quelle en était la teneur. C'est le verset 3. Tu diras deux points. Ainsi parle le Seigneur, je te confère l'onction pour que tu sois roi sur Israël. Point. Et au verset 6. Nous voyons le jeune messager commencer par restituer la formulation au mot à mot, lorsque soudain, patatras, sa parole s'emballe. Le voilà qui tout à coup gratifie Jéhu d'une tirade qu'Élisée n'avait pas dictée. On les relit ces quelques versets, à partir du verset 6. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, je te confère l'onction pour que tu sois roi sur le peuple d'Israël. Jusque-là, tout va bien. Et tout à coup, tu abattras la maison d'Akab, ton Seigneur, je vengerai le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang des serviteurs du Seigneur, je ferai payer à Jézabel toute la maison d'Akab, disparaîtra, je retrancherai, etc. Les chiens mangeront Jézabel sur la parcelle de Jisraël. Il n'y aura personne pour l'ensevelir. Quelle violence! Vous avez vu un peu le vocabulaire, les expressions. C'est assez sidérant. Ce gamin vient de déclencher une bombasse. Thank you. Comment se fait-il que notre sympathique monsieur Personne, il est mignon ce gamin, dérape d'une façon aussi outrée? Là aussi, le chiffre 3. Trois questions se posent. Par hasard, première question, l'infaillible Élisée se serait-il trompé de casting? Aurait-il choisi la mauvaise personne? Deuxième question, une mission d'une telle envergure n'aurait-elle pas mérité que quelqu'un d'un peu plus expérimenté et aguerri s'en chargeât, comme Élisée lui-même, par exemple? Troisième question, et si au fond, il ne s'agissait que d'une erreur de jeunesse? Réponse à la première question. Non, il ne s'agit pas d'une erreur de casting. Élisée est lui-même inclus dans un principe ou dans un processus d'obéissance. C'est grâce à une révélation, c'est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu qu'il choisit la bonne personne. En réalité, il ne fait que se laisser guider par l'Éternel. Plus clairement, ce n'est pas le casting ou le choix d'Élisée, c'est le casting et le choix de l'Éternel Dieu. C'est Dieu, seul souverain, qui choisit et qui désigne. Réponse à la deuxième question. Une mission diplomatique d'une telle envergure n'eût-elle pas mérité qu'Élisée lui-même s'en chargeât? Eh bien, il n'appartenait qu'à Dieu seul d'en juger, et Dieu n'a pas choisi Élisée. Il a désigné quelqu'un d'autre. Non une star confirmée et reconnue de tous, mais un parfait inconnu, un parfait monsieur Personne. Saluons au passage l'humilité et l'inconditionnelle soumission du grand prophète qui, loin d'exprimer de la frustration comme un certain Naaman le lépreux, vous savez, eh bien non, Élisée, haute figure de l'Ancien Testament, se contente d'obéir au maître en passant le relais. Troisième question, s'agit-il d'une erreur de jeunesse? Le jouvenceau se fourvoie-t-il dans une inspiration personnelle inconsidérée? Au chapitre 1 et au verset 21 de sa deuxième épître, l'apôtre Pierre écrit ceci. Aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine. C'est par l'Esprit Saint que les humains ont parlé de la part de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 15, Jésus précise « Gardez-vous des prophètes de mensonges, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout bon arbre porte de bon fruit. » Dit autrement, une prophétie inspirée de Dieu est une prophétie qui s'accomplit toujours. Or, tout ce qu'a énoncé le jeune Mr. Nobody, des versets 7 à 10, tout s'est accompli à la lettre. Il ne s'agit donc pas d'une erreur de jeunesse, mais de l'action toute puissante du Dieu souverain. Faisons ici deux observations. Une fois le tout dernier ordre exécuté, je vous le relis, le verset 10 précise, puis il ouvrit la porte et s'enfuit. Le jeune homme disparaît, Il retourne vers son néant, le voilà définitivement et réellement redevenu personne. Combien petite, combien minuscule est la surface qu'occupe ce gamin dans l'immense fresque qu'est la Bible. Que de fugacité dans cette petitesse, et pourtant, quelle portée. Deuxième observation. Ce pauvre monsieur personne n'a eu droit pour toute récompense qu'à être traité de fou. Pourquoi, dit le verset 11, pourquoi ce fou est-il venu te voir ? Il est considéré comme un insensé, un taré, un gros débile, parce qu'il a, avec zèle et courage, porté le message du Seigneur. Les missions que Dieu confie à celles et ceux qu'il choisit n'ont pas pour but de leur conférer ou de leur octroyer la gloire des humains. Être acteur des plans de Dieu, œuvrer à l'avancement de son règne, c'est travailler pour sa gloire et pour la gloire de son nom. Certes, le moment venu, la récompense viendra, mais au temps convenable, fixé par lui seul. Enfin, notons, pour en terminer avec le jeune prophète, que depuis le début du récit jusqu'à la fin du récit, pas une seule fois, pas une, il n'a prononcé le mot « je ». Pas une seule fois, pas une, il n'a dit « moi ». La mission est prioritaire sur tous les points. Le missionnaire importe peu. Il y a là un éclairage particulier à retenir à propos de tel ou tel fonctionnement de nos hiérarchies. Partout où l'humain tente d'organiser puis de gérer le groupe ou la cité, dès que se profile un embryon de pouvoir, ex nihilo, des réseaux d'influence se mettent en place. Cela vaut pour la chose sociale, cela vaut pour la chose économique, financière, médiatique, bien évidemment politique, mais ne nous déplaise. Cela vaut aussi pour la chose ecclésiastique ou ecclésiale. Nous avons, nous aussi, au sein de nos assemblées, des hiérarques plus ou moins visibles, ou plus ou moins autoproclamés, qui aiment les places en vue et qui se posent en indispensable dès lors qu'il s'agit de décider ou de choisir. Il y a dans l'évangile de Luc un de ces passages à vous coller froid dans le dos. Vous savez, ces passages qu'on n'aime pas trop, qui nous dérangent, enfin, qu'on n'aime pas du tout d'ailleurs. Surtout lorsqu'ils concernent nos communautés et certaines paroles occultes, avec leur cortège souterrain d'appui mutuel, qui tissent en secret les trames plus ou moins obscures des grands, des moyens et des tout petits pouvoirs. Luc 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Rien de caché qui ne doive être reconnu. C'est pourquoi ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour. Ce que vous avez chuchoté à l'oreille dans les pièces les plus obscures sera proclamé sur les toits en terrasse. Mes chers amis, reconnaissons-le, que ce soit collectivement ou individuellement, Cette histoire nous rappelle tout et toutes à l'ordre. Dieu est seul maître. Dieu est souverain. Il se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Et c'est de lui seul que viennent et le message et l'onction. Alors comment recevoir l'enseignement de ce récit pour qu'il porte des fruits? C'est notre quatrième et dernier paragraphe. Là aussi, au moins trois cas de figure se présentent. Premier cas de figure. Comme Élisée, il faut apprendre à distinguer puis à se soumettre devant la volonté de Dieu. Il faut s'y tenir. Il faut l'accepter sans essayer de s'accrocher coûte que coûte à tel poste de responsabilité. Si nous sommes de ces Élisées-là, soyons pédagogues lorsque nous adressons à des novices. Indiquons toujours, mes amis, indiquons toujours le Christ comme seul chemin, seule vérité, seule vie éternelle et seul accès au Père céleste. Et de plus, si le Seigneur personnellement nous le montre, nous le demande, acceptons nous aussi de passer le relais. Deuxième cas de figure. Comme le jeune prophète, acceptons l'appel. Ayons du courage et du zèle, même s'il s'agit d'aller affronter des chefs ou des Goliaths. On peut très bien être jeune, inexpérimenté et anonyme, tout en étant obéissant, scrupuleux et enthousiaste. Il n'y a là aucune antinomie. Vous avez tous la feuille du mois de mai ? Si vous l'avez lu, vous avez vu la petite phrase à méditer en bas là ? Ah ben moi je vous la redis. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Troisième cas de figure. Soyons rassurés par la réaction de Jéhu. De lion tueur, il s'est transformé en agneau docile dès que s'est manifestée la parole de Dieu. Enfin, notons pour résumer que dans les trois cas de figure que nous venons d'observer, les personnages évoqués ne sont en réalité que secondaires. Redisons-le, celui qui choisit, qui envoie et qui donne les mots, celui qui donne les mots, c'est Dieu seul souverain. Les simples acteurs, les simples outils que nous sommes ne constituent jamais le nombril des missions de Dieu. Pour ces missions-là, nous ne sommes jamais que des messieurs et des madames, des mesdames. Personne. Alors pour clore ce temps de méditation, un appel, puis la conclusion. Dans notre Église, dimanche après dimanche, nous avons l'insigne privilège d'avoir trois belles rangées de jeunes. Regardez comme ils sont beaux. Merci. Voilà, il y a des gens qui apprécient. Leur fidélité au culte est un bon témoignage. Je voudrais dire ceci. Ne négligez pas l'appel. Ne craignez pas d'être des désignés. Ne vous reposez pas sur le principe bancal selon lequel les missions que confie le Seigneur seraient systématiquement désignées aux aînés. Pourquoi voulez-vous réduire la puissance de Dieu à une histoire de génération ? Ça ne tient pas la route. Avez-vous de l'appréhension à faire confiance en celui qui transforme les fauves en moutons ? Si dans l'Ancien Testament, Élisée n'a pas hésité à faire confiance au jeune Mr. Nobody, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul n'a pas hésité une seconde à faire confiance au jeune monsieur Timothée. Il avait votre âge. Regardez ce qu'il lui écrit, Paul, dans une lettre. Que personne ne méprise ta... Que personne ne méprise ta jeunesse. Applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'encouragement, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi. Prends cela à cœur. Sois tout entier à la tâche. Veille sur toi-même. Êtes-vous prêts, jeunes gens ? Êtes-vous prêts, jeunes filles ? De l'église baptiste de la Combe des Oiseaux à vous lever pour servir le Seigneur ? Avez-vous envie, oui ou non, d'être concerné, d'être impliqué, d'être comme absorbé dans la joie du service ? Ce matin, vous êtes clairement et très sérieusement appelé à vous poser personnellement ces questions. Conclusion. N'allez surtout pas vous imaginer qu'au prétexte d'avoir refilé le bébé avec l'eau du bain, le grand Élisée s'est laissé couler dans un fauteuil confortable, la télécommande à la main droite et une canette de bière bien fraîche à la main gauche en disant « Waouh, bon débarras, chaud, tranquille !» Mais ne vous marrez pas, il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Fidèlement, il a continué à servir. Tous, quelles que soient nos carrures, nos talents, nos dons, nos âges, nous avons à œuvrer dans la même direction, jeunes et moins jeunes, soyons toutes et toutes des fidèles serviteurs et servantes du Dieu souverain. C'est lui qui tient le monde dans sa main. Dernier précepte. N'oublions pas, une fois la mission terminée, achevée, de refermer soigneusement la porte derrière nous avant de nous dissoudre dans la plus parfaite des discrétions. Il y va de notre humilité, et c'est la Bible qui le dit. L'humilité précède la gloire. Amen. Je vous invite à quelques